Bonjour à chacun et chacune d'entre vous, et spécialement à ceux que nous n'avons pas croisés déjà dans le couloir. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 23e Assemblée Générale. Et donc j'ai la délicate mission d'ouvrir la journée en vous parlant de l'enseignement et de moi en rapport à cet enseignement. Vous avez peut-être vu sur la convocation à l'Assemblée Générale que le titre était assez ouvert, on va dire, hein, puisque c'était intitulé « Je suis censé sur la voie de l'Adhyatma Yoga ». Alors à vrai dire, quand on a fait cette lettre, j'étais bien incapable de dire de quoi j'allais parler, donc j'ai cherché un titre qui pouvait, j'étais sûr que je rentrerais dans le sujet. Si j'avais pris un sujet plus explicite, j'aurais été coincé. Et donc, une partie de ma sadhana récente, ça a été de me dire, mais de quoi je vais leur parler? Et en fait, j'ai fait un rêve il y a 3 jours, qui montre bien que c'était quelque chose qui quand même me travaillait un peu. Et c'était un rêve avec Mr. Lee. Je me trouvais dans une assemblée, une petite assemblée, plutôt autour d'une table que là, devant un auditoire, et j'étais censé parler de moi. Et Mr. Lee était là et me faisait sentir que j'avais intérêt à être authentique. Et donc... Et je commence à parler, et je m'aperçois que c'était des anglophones, c'était de ses élèves. Il fallait donc que je parle en anglais. Bon, je comprends un tout petit peu l'anglais, mais je ne suis pas du tout un anglophone. Donc, je commence à bafouiller des trucs, à essayer de m'impliquer, et je bute sur un mot, je ne me rappelle plus, que confession. Je ne connais pas le mot confession en anglais. Parce que j'étais en train de dire, oui, ce que vous voulez, c'est que je me confesse, mais je ne trouvais pas le mot. Bon. Alors, je me suis réveillé sur ces entrefaites. Mais évidemment, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que ça veut dire ce rêve, 3 jours avant de prendre la parole à la Berthet. Voilà. Donc, en fait, j'ai fait ma petite interprétation, je la garde pour moi. Mais. Voilà, c'est pour dresser le contexte. Je vais vous faire l'interprétation. J'ai compris qu'il fallait que je parle authentiquement de moi, mais qu'il fallait que je vous rejoigne dans votre monde. C'est-à-dire que je ne suis pas ici dans un groupe de thérapie où je peux juste déballer ce que je porte en moi. Et puis, voilà, vous êtes d'autres personnes qui allaient faire pareil, et on est au même niveau, et voilà. Non, je dois avoir le souci d'authenticité, mais aussi le souci de vous rejoindre dans vos problématiques, puisque je ne parle pas d'abord et avant tout pour me soigner, mais pour vous apporter quelque chose, et si possible, dynamiser notre communauté. Voilà, c'est comme ça que j'ai interprété ce rêve. Si vous avez d'autres idées, vous les soumettrez à un autre moment. Donc, du coup, ça m'a aidé en fait à me décider sur ce dont j'allais vous parler. Et je vais vous parler de mon chemin, hein, et essentiellement sur 3 aspects de ce chemin. Le début, je vais vous parler... des illusions du débutant, parce que parmi nous il y a quelques personnes qui sont plutôt au début de leur chemin, donc des fois que ça puisse leur parler, peut-être leur éviter certaines erreurs. Après je vais vous parler du milieu du chemin, c'est-à-dire un petit peu où j'ai l'impression d'en être, les choses sur lesquelles j'ai franchement l'impression d'avoir progressé, et les choses sur lesquelles je bute parce que c'est pas si simple. Et puis enfin, je vous parlerai un petit peu de la fin du chemin telle que je la vois aujourd'hui. Voilà. Voilà l'idée. Alors, j'ai combien de temps pour faire ça ? On verra. Alors, j'ai, en y réfléchissant comme ça, je me suis dit qu'il y avait au moins deux choses que j'avais envie de partager avec vous et qui, j'ai envie d'appeler les erreurs du débutant, hein, mais on est tous plus ou moins aussi des débutants. En tout cas, chez moi, c'était fort. C'est pas forcément vrai chez tout le monde. Mais moi, j'ai démarré cette recherche avec une très grande exigence et un très grand idéalisme. Vous savez, le mot idéalisme, il n'a pas très bonne presse dans l'enseignement de Swamiji. Beware of idealism, disait Swamiji. Faites gaffe à l'idéalisme. Méfiez-vous de l'idéalisme. Bon, mais moi, j'avais... En même temps, si on n'a pas au départ des aspirations fortes, on ne s'engage pas non plus sur un chemin comme ça. Donc j'avais des aspirations fortes. Et vous connaissez la publicité, un Ricard sinon rien. Eh bien moi, je m'attribuais cette publicité, la libération sinon rien. C'est tellement vrai que le premier voyage en Inde qu'on ait fait, on a rencontré un authentique yogi dont on est devenu les élèves, Swami Dattatreya il s'appelle. Et c'était un disciple d'un maître. On était dans un ashram, il y avait un maître, Swami Dhirendra Brahmachari, qui avait des disciples, des gens consacrés, qui étaient, et qui il nous avait dit, c'est ce disciple qui va vous enseigner. Donc on était ses élèves. C'était des cours semi-particuliers de Hatha Yoga, mais on faisait aussi de la philosophie autour du yoga, avec Swami Dattatreya. Il était vraiment la crème des hommes. Il était tout le temps de bonne humeur, il était drôle, il était détendu, enfin, tout ce qui aurait pu me faire envie à l'époque, il incarnait vraiment un homme à l'aise. Sauf que un jour, je lui ai posé la question, est-ce que vous êtes libre ? Non, je ne suis pas au bout du chemin, non. Et est-ce que ça ne vous gêne pas ? Et il me répond en rigolant, mais non, pas du tout. Ça viendra quand ça viendra, tout va bien, etc. Et à l'époque, moi, ça m'avait complètement déstabilisé et déçu. Il dit, mais il ne vaut rien ce yogi. Il n'est pas intéressé par la seule chose qui compte, la libération. Donc vraiment, il est minable. Bon, j'exagère un peu, mais il y avait quelque chose comme ça pour vous faire un peu sentir combien c'était quelque chose qui, à l'époque, était essentiel pour moi. Sauf que, bien évidemment, dans la façon dont je me représentais ce que pouvait être la libération, il y avait beaucoup, beaucoup d'illusions. Et ce n'est que peu à peu que j'ai perdu ces illusions et que j'ai mieux compris de quoi il s'agissait et que du coup, je comprends beaucoup mieux ce yogi, Swami Dattatreya, et son peu d'empressement. C'est pas au mauvais sens du terme. C'est pas que ça l'intéressait pas ou qu'il voulait faire autre chose, mais c'est que il considérait que c'était le processus ou l'aboutissement d'un processus de maturation et que on n'obtient pas une fleur plus rapidement si on tire sur la tige pour qu'elle grandisse. On l'arrache et puis elle pousse plus. Voilà. Donc, le cœur de mes illusions autour de ce concept de libération, c'était que je m'imaginais, je me représentais, moi, libéré. C'est-à-dire moi tel que je me connais, plus tous les attributs que j'imaginais liés à la libération. C'est-à-dire moi serein, moi calme, moi disposant de toutes mes capacités pour être brillant, pour répondre aux situations, pour assumer. Hein. Moi, plus tout ce que je pouvais ajouter comme qualité que je n'avais pas et qui me faisait envie. Voilà. Et puis, un jour, j'ai entendu cette phrase, je crois, prononcée par Daniel Morin, et qui est venue percuter cette représentation des choses et mettre un terme à un processus qui s'était déjà fait en moi, de remise en cause. Mais Daniel Morin, avec ses formules à l'emporte-pièce, il a souvent eu comme effet sur moi de me faire franchir un seuil de prise de conscience. Un jour, je vais citer de tête, mais il a dit quelque chose comme ça. La libération, c'est pas moi libéré, c'est être libéré de moi. Hein, c'est pas que je suis libéré, c'est que l'impression d'être moi, c'est ça qui tombe. Donc, ça m'a ouvert les yeux en me disant, mais en fait, je fais fausse route en essayant d'ajouter des qualités à ce que je me sens être, alors qu'en fait, il s'agit de me dessaisir de ce que je me sens être. Et à partir de là, c'est devenu plus clair, mais j'ai compris aussi que ça devenait plus difficile. C'est facile d'avoir envie d'augmenter la perception qu'on a de soi-même, de l'enrichir, de l'améliorer. Voilà. J'avais compris que la libération, c'était un truc pour améliorer l'impression qu'on a de soi-même. Et je me suis ouvert à cette idée qu'il ne s'agissait pas d'améliorer ce que je me sens être, mais qu'il s'agissait d'effacer ce que je me sens être pour que quelque chose de plus grand que moi puisse passer à travers moi, m'animer, et que, on dit un peu autrement, la libération ne peut pas être une affaire personnelle. C'est pas ma libération. C'est la libération de l'impression que j'ai d'être une entité limitée. Alors, ayant entreaperçu ça, c'est devenu nettement plus clair, mais en même temps, aussi, j'ai mieux compris pourquoi ça ne pouvait pas venir comme ça, du jour au lendemain, même si je m'y attachais, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, c'est pas un scoop, qu'il y a plein d'aspects de moi-même qui n'étaient pas du tout intéressés par l'idée de disparaître, de mourir, il y avait plein de dynamisme en moi qui n'aspirait qu'à une chose, c'était à exister. Alors donc, ça c'était une première illusion qui est tombée petit à petit. Deuxième illusion, c'est pas dans l'ordre, hein. Et là, ce dont je vais parler maintenant, c'est peut-être plus difficile, et c'est venu plus vite. C'est que j'avais une perception de ce que je vais appeler mes qualités et mes défauts, très inappropriée. Je croyais me connaître, je croyais que j'avais certaines qualités, je croyais que j'avais certains défauts, et en fait, je me trompais sur presque toute la ligne. Ce que je croyais être des qualités se sont révélées, après un certain nombre d'efforts et de déconvenus, être, sinon des défauts, du moins pas des qualités sur lesquelles je pouvais m'appuyer, parce que c'était des produits de ma névrose. Je vais donner des exemples pour que ça soit parlant. Et que les défauts que je croyais avoir, en fait, ils étaient beaucoup plus... ils étaient beaucoup plus handicapants que je ne le reconnaissais. Voilà, la sadhana, c'est une parole d'Eric Edelman. La sadhana, ça commence, dit-il, par une série de mauvaises nouvelles. Voilà, les premières années de la sadhana, c'est une succession de mauvaises nouvelles. Alors moi, j'ai vécu ça, je dirais, au moins pendant 5 ans. C'est-à-dire, en quoi c'était une succession de mauvaises nouvelles, c'est que je découvrais année après année, ou séquence après séquence, hein, c'est pas calé sur les années calendaires, je découvrais que mon point de départ était en deçà de là où je croyais qu'il était. Je croyais que j'étais là et qu'il fallait que j'aille là, et je m'apercevais qu'en fait j'étais là. Ah merde, j'ai plus de chemin à parcourir que je croyais. Puis quelques mois plus tard, je m'apercevais, ah non, mais je suis pas là, je suis là. Bon, alors c'est encore plus loin. Voilà. Et pendant 5 ans comme ça, le but, au lieu de se rapprocher, n'a fait que de reculer, si je puis dire. Enfin, c'est d'une certaine façon, parce que évidemment que, en réalité, comme j'étais pas là où je croyais, mon évaluation était fausse. Le but n'a pas reculé. Et moi, j'ai mieux évalué la distance. Alors, pour que ça ne reste pas trop théorique, je vais vous donner un ou deux exemples. Quand j'ai connu Arnaud, j'avais donc fait des études de philo, on avait été en Inde, on avait étudié le Vedanta, et on avait compris des choses très précieuses que je ne renie pas aujourd'hui. Mais du coup, bien évidemment, je m'étais passablement identifié à ces connaissances, à cette relative aisance que j'avais intellectuellement. Et je considérais qu'un de mes points forts, c'était mon intelligence, ma capacité à comprendre. Et donc, j'étais spécialement qualifié pour la voie de Swamiji, puisque c'est un yoga de la connaissance. Moi, j'allais gazer. Voilà. Et en effet, j'ai commencé par gazer, entre guillemets. C'est-à-dire, je donnais l'impression, enfin, je me donnais à moi l'impression, parce que j'ai jamais trompé Arnaud là-dessus, que je comprenais vraiment bien les choses et que d'ailleurs j'étais capable de les expliquer très facilement. Voilà. Jusqu'au jour où j'ai démarré les layings, qui sont un aspect de. Et où, après avoir fait un certain nombre de layings sur ma petite enfance, je me suis rendu compte, enfin je suis tombé sur. J'ai mis à jour un des traumatismes qui ont été déterminant dans mon histoire personnelle, un traumatisme qui n'a rien d'exceptionnel, on est très nombreux à avoir connu ce genre de situation. Je suis l'aîné de 4 enfants et donc j'ai eu à l'âge de 18 mois un petit frère qui est apparu dans ma vie. Et la façon dont ça s'est passé pour moi, ça s'est mal passé. Et ça s'est mal passé, pour vous dire les choses en bref. Ma mère a essayé, comme souvent des mères, de me préparer le terrain. Sauf que j'étais tout petit, j'avais 12, 13, 14 mois pendant la grossesse. Donc voilà. Elle a essayé avec sa sensibilité de me faire, comment dire, de me prévenir de ce qui se passait. Et en particulier, puisqu'elle était enceinte, elle me faisait toucher son ventre, le caresser, voilà. Et elle me disait, voilà, tu vas avoir un petit frère. Enfin, elle me parlait du bébé qui était dans le ventre. Sauf que moi, à 12 mois, 13 mois, 14 mois, j'ai absolument rien compris de ce qu'elle me disait. Enfin, ça, c'est ce que j'ai retrouvé en laying, hein. J'ai rien compris. J'ai juste compris que j'avais le droit à une espèce de privauté exceptionnelle. Je pouvais lui caresser le ventre. Enfin, voilà, c'était une espèce d'intimité tout à fait. Voilà, comme quoi j'étais quelqu'un d'important. J'avais le droit de lui toucher le ventre, etc. J'ai absolument pas compris. Pourquoi et ce que ça voulait dire. Bon, après, il y a eu un petit traumatisme ou un gros supplémentaire, c'est que pour des raisons de santé, elle a dû se séparer de moi, me confier à ses parents, donc à mes grands-parents, les 3 derniers mois de sa grossesse. Donc, je n'ai pas vu la fin de la préparation, peut-être que j'aurais pigé, hein, mais là, il m'a manqué un bout. Et quand je suis arrivé, Eh bien, il y avait un espèce de petit truc dans mon berceau, et on m'a dit que c'était mon frère. Voilà. Alors, j'ai pleuré, etc. Tout ça, c'est des choses que j'ai retrouvées en laying. Et ce qui est directement en lien avec mon sujet précédent, c'est qu'à un moment, j'ai compris que je m'étais trompé et que elle avait essayé de me préparer, mais que j'avais pas pigé. Et donc ça s'est inscrit en moi que la source des problèmes, c'est d'être con. Il faut pas être con dans la vie, parce que sinon on dérouille. Et à partir de ce moment-là, je me suis crispé sur l'importance de comprendre. Évidemment, j'étais normalement constitué, que j'étais intelligent, comme tout le monde. Mais du coup, chez moi, c'est devenu une priorité. Il faut comprendre avant que les choses n'arrivent. Sinon, on va être débordé et ça va être terrible. Donc, j'ai grandi sur cette base-là. J'étais un bon élève. Tout cet aspect intellectuel a pris une place très importante dans mon développement personnel, et bien sûr au détriment d'autres aspects que j'ai pas développés, en particulier physiquement. J'étais quelqu'un de fragile, pas du tout à l'aise corporellement. J'ai grandi comme ça, et je suis donc arrivé auprès d'Arnaud comme ça. Allez-y Arnaud, pour voir, vous allez voir si j'ai pas du répondant intellectuellement. Eh bien, c'est ça que j'appelle les qualités qui n'en sont pas vraiment et qui nous trompent. Alors bon, moi, je vous parle de mon exemple à moi, mais nous avons chacun notre névrose, petite ou grande, qui nous a déformés dans un sens ou dans un autre. Certains, ils ont développé des capacités, une espèce de un surdéveloppement intellectuel. D'autres vont avoir développer une habileté à plaire, à séduire, à être aimé. Bon, c'est une autre façon. C'est, pour vous, dans votre histoire, vous ne vous êtes pas senti suffisamment apprécié. Peut-être que votre névrose, ça a été de développer des stratégies pour être aimé par votre gentillesse, etc. Et du coup, vous comptez sur des qualités qui sont des traits de votre caractère. C'était vraiment un trait de mon caractère. J'ai fait une thèse, etc. Donc, je suis capable d'aligner des idées. Mais ça n'est pas une qualité sur la voie. C'est presque l'inverse. C'est une déformation. Il va falloir que je perde, non pas mon intelligence, mais le système de défense qui consiste à avoir besoin d'expliquer les choses avant de les vivre. Et ça a mis du temps. Et je crois que ça a bien progressé, mais je ne suis pas sûr que j'en suis encore complètement libéré. Du coup, socialement, ça donne des choses positives. Je suis un bon organisateur. Bien sûr, moi j'ai besoin de savoir comment ça va se passer à l'avance. Donc du coup, je vais bien organiser les choses. Mais vous voyez comment ce qui peut paraître comme une qualité, et même qui peut être reconnu socialement, en fait repose sur un fondement névrotique. Être un bon organisateur, c'est bien, mais être capable de spontanéité et d'adaptation, c'est encore mieux. J'ai jamais aimé Mr. Lee, je repense à mon rêve. J'étais contrarié d'avoir rêvé à Mr. Lee. Parce que Mr. Lee, c'est typiquement la personne qui vit spontanément, qui ne, non pas qu'il n'est pas capable de d'avoir des projets et de les réaliser, mais c'est fondamentalement quelqu'un qui vit la vie, voilà, qui répond à ce qui se passe, qui s'adapte, etc. Donc, spontanément, c'est pas quelqu'un vers qui j'ai envie d'aller et un enseignement, ah oui, super, on va vivre sans projet, sans plan et tout. Non, moi, je suis perdu. alors, un autre exemple. Alors j'ai pris l'exemple d'une qualité, je vais prendre l'exemple d'un défaut mal évalué. Donc j'étais peu physique. Ça veut dire que je jouais jamais à des jeux violents avec, à l'école, par exemple. Les enfants qui se battaient, qui jouaient à des sports, même le foot et tout ça, on peut prendre des coups et tout. Moi, je joue pas au foot. Voilà. Donc ça, je le sentais comme une faiblesse. Mais j'étais en compensation extrêmement gentil, le mot va pas vraiment, capable de mettre les gens en relation, diplomate, facilitant les rapports entre les gens, arrangeant les conflits, etc. Donc, je savais que j'étais bon, que je manquais un peu d'assurance et de masculinité, on peut dire. Mais finalement, je trouvais que ça me donnait aussi une qualité, c'est que ça me rendait plus capable de jouer le rôle de médiateur, de celui qui arrange les angles, etc. Du coup, j'avais transformé ce qui était en fait une faille de ma constitution en quelque chose que je considérais comme positif et bienfaisant pour mon entourage. Et du coup, je n'avais pas à travailler sur moi de ce point de vue, puisque je trouvais que finalement, c'était quand même mieux d'être sympa avec les autres plutôt que d'être macho et d'arriver avec ses gros sabots, etc. Voilà. Le genre de... Je prends juste ces deux exemples pour illustrer cette idée que, bien souvent, quand on démarre sur un chemin, on a une perception de soi-même qui est faussée, et on s'attribue des qualités qui n'en sont pas vraiment, on minimise des défauts ou des failles qu'on a vraiment mais qu'on ne veut pas voir en face. Et c'est ce qui fait que pendant des années, j'ai pas progressé plus vite, parce qu'en fait, tant que ces illusions de départ n'avaient pas été remises en cause et dépassées, forcément, je pédalais à côté des pédales, quelque part. Hein, j'avais beau faire des efforts, en fait, j'étais pas vraiment en prise avec ma réalité. Alors, ensuite, quelque chose qui m'a retardé sur le chemin, mais là, je ne suis pas le seul, c'est que j'ai été pris par l'illusion de la puissance des layings. Quand je dis « je ne suis pas le seul », en gros, on a tous été, du temps du BOST, on a grande majorité de ceux qui allaient au BOST ont été victimes de la même illusion. À l'époque, les layings, c'était inconnu. On avait l'impression de faire un truc génial, qui n'avait jamais existé avant, qui n'existerait peut-être plus jamais après. Donc, et il se passait vraiment des choses importantes en laying. Hein, ça, voilà. Donc, bien qu'Arnaud passait son temps à nous dire, vous savez, les layings, c'est qu'un aspect du chemin, c'est pas l'aspect le plus essentiel, on était tous, en tout cas, on était nombreux à penser, ouais, bon, dis ça, parce que, voilà, mais l'important, c'est que je fasse mes layings, et après, on verra. On verra pour les autres aspects du chemin. Ce qui fait que moi, j'ai pas vraiment... j'ai entendu parler des autres aspects du chemin dès le premier jour où j'ai mis les pieds au Boste, mais je n'ai pas réellement mis en pratique de façon sérieuse.